Sur PFM, Nouvelle d'Europe avec France Sauvier, bonjour.
Bonjour.
Alors, le Royaume-Uni fait bande à part ?
Le 9 décembre, l'accord sur un nouveau traité s'est fait à 26 et non à 27. Un des pays de l'Union n'en a pas voulu, le Royaume-Uni. Il exigeait, pour se rallier à l'accord, que la place financière de Londres soit exonérée de réglementation financière. Les réticences de Londres à intégrer l'Europe sont une vieille histoire. Churchill, au lendemain de la guerre, proposait la création des États-Unis d'Europe, mais précisait « with it, not in it », solidaire, mais sans en faire partie. Il avait, à la veille du débarquement de Normandie, déclaré au général de Gaulle « Sachez-le, général, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai Roosevelt. » Ainsi, le Royaume-Uni a refusé d'intégrer la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, en 1951, puis la CEE, Communauté Économique Européenne, en 1958, alors qu'il y avait été chaque fois invité par les six États fondateurs. La première demande d'adhésion à la CEE fut déposée en 1961. Elle s'est heurtée à l'opposition de De Gaulle, qui voyait en la Grande-Bretagne le cheval de Troie des Américains. Ce n'est qu'en 1973 que l'adhésion a été acceptée par Pompidou. Les difficultés ont commencé sur le montant de la contribution des Anglais au budget communautaire. Margaret Thatcher l'a portée à son paroxysme avec la célèbre phrase « I want my money back », « Je veux récupérer mon argent ». Et l'institution du rabais britannique qui subsiste toujours. Le traité de Maastricht allait introduire une formule appelée à se développer par la suite, les « opt-out », c'est-à-dire le droit obtenu par certains États de ne pas participer à une politique communautaire. La Grande-Bretagne en a largement usé en refusant successivement de participer à l'espace Schengen, à l'euro, à l'application contraignante de la Charte des droits fondamentaux, à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Concernant la défense, la Grande-Bretagne refuse la création d'un quartier général commun. Dans les négociations du traité de Lisbonne, elle s'est opposée à ce que l'Union ait des attributions qui ressemblent à celles des États. Ont été supprimés du traité les symboles de l'Union, les termes de loi européenne, de ministre de l'Union. La pleine participation du Royaume-Uni aux politiques européennes se heurte à deux obstacles. D'une part, en matière de politique extérieure, elle maintient un lien spécial avec les États-Unis. Elle privilégie ce lien à ceux qu'elle a avec les autres États européens. D'autre part, elle ne considère pas l'Union européenne comme un projet politique, mais comme un simple espace économique. Elle souhaite à ce titre que cet espace s'étende et souhaite l'élargissement de l'Union, notamment à la Turquie. Le refus du 9 décembre dernier d'intégrer une Union économique renforcée est logique. La Grande-Bretagne est opportuniste et ne souhaite pas de projet politique européen. Elle souhaite bénéficier du marché unique en subissant le minimum de contraintes. Elle confirme un statut de membre de seconde catégorie. Elle ouvre, par son retrait, la voie à plus d'intégration entre les autres pays de l'Union et, dans un premier temps, entre les 17 pays de la zone euro. La difficulté sera de définir des relations avec la Grande-Bretagne qui ne nuisent pas aux politiques communes auxquelles elle participe, notamment le marché unique. D'autre part, le choix de l'isolement du Royaume-Uni compromet une politique, encore faible de l'Union européenne, mais essentielle pour son avenir, la politique extérieure commune. Le Royaume-Uni est en effet, avec la France, le seul pays européen à avoir des moyens militaires significatifs. Sa participation paraît nécessaire à une défense européenne crédible.
Prochaine chronique Nouvelle d'Europe, la semaine prochaine.